RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Ensemble, nous recevons Éric Ciotti. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Les Républicains des Alpes-Maritimes et vous êtes président de la Commission nationale d'investiture des Républicains. Mais vous êtes aussi ministre de l'Intérieur du Shadow Cabinet qu'a mis en place donc Laurent Wauquiez. On en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Donc Emmanuel Macron a fait des annonces ce matin, pas beaucoup mais quelques-unes, mais plus que des annonces, il a dit comprendre les gilets jaunes. On l'écoute et on en reparle.
Je veux ici dire que je ne confonds pas ces actes inacceptables avec les manifestations sur lesquelles ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions.
Alors, de ce discours, de cette allocution, il y a la forme et le fond. On va rester un instant sur la forme. Est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron a fait preuve de beaucoup plus d'humilité, en quelque sorte, que le ton a changé ?
Manifestement, il a essayé de tempérer son arrogance. Y est-il parvenu ? Je n'en suis pas convaincu, parce que le fond a démontré qu'il n'avait absolument pas compris ce qui se passait dans le pays.
Ça aurait été quoi de comprendre quand vous dites
son discours, c'est de comprendre la révolte fiscale qui gagne aujourd'hui des millions de Français qui ne supportent plus le poids des charges, des taxes, des impôts qu'ils subissent depuis trop nombreuses années. La France a le record du monde aujourd'hui des pays de l'OCDE des prélèvements obligatoires, des taxes et des impôts, 1330 milliards de prélèvements obligatoires par an, c'est gigantesque. Et la réponse adaptée, c'est aller vers une décrue fiscale. C'est à tout le moins le 1er janvier.
C'est-à-dire, on supprimait cette taxe sur le diesel.
Déjà, au 1er janvier, dans quelques semaines, dans quelques jours, maintenant, c'est arrêté cette augmentation. Les Français expriment une colère sur l'augmentation du carburant, mais je dirais que le carburant, c'est un élément qui s'inscrit dans un contexte beaucoup plus global. C'est la hausse de la CSG, c'est la multiplication des taxes qui chaque jour sont annoncées, c'est l'augmentation de l'impôt sur le revenu, 54 milliards d'augmentation d'impôt sous les socialistes. N'oublions pas d'ailleurs, et certains feignent de l'oublier, qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie de François Hollande. Et avant d'être ministre, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc, il a participé à toutes ces augmentations fiscales. Quand il a été élu, les Français, par quelques-uns, ont cru que tout cela allait s'arrêter, qu'on était dans le nouveau monde,
Éric
que
Ciotti,
les impôts allaient diminuer. Or, les impôts ont continué à augmenter.
Ça n'est pas la première fois, loin s'en faut, que les Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler les fins de mois ressentent cette forme d'exaspération, cette forme de déclassement. En revanche, c'est la première fois que ça donne lieu à ce mouvement dont tout le monde s'accorde à dire qu'en effet, il est inédit dans sa forme. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il vient en quelque sorte remplir un vide, combler un vide qui serait celui au fond des mécanismes qui servent de baromètre de l'état de la société? Est-ce qu'au fond, par exemple, les élus aujourd'hui, les députés, les sénateurs font encore bien leur travail pour restituer l'état de la société au sommet de l'État?
En tout cas, je crois que certains le font. Quand mes collègues républicains du Sénat ont voté vendredi dernier un amendement supprimant l'augmentation de ces taxes, ils entendent la colère du pays. Et j'espère que l'Assemblée nationale confirmera cette décision opportune et légitime du Sénat. Nous entendons la colère et il faut que cette colère soit entendue. Autrement, il y aura une révolte dans le pays. Vous savez, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les impôts, aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. ils le disent, 25% d'augmentation de la CSG pour les retraités. 8 millions de retraités, selon les études, vont perdre du pouvoir d'achat à la fin du quinquennat. On n'est qu'au début de la hausse de la fiscalité. C'est ça qui est une forme de folie, puisqu'on a vu ce qui s'est passé, la colère. Et ce matin, Emmanuel Macron nous dit, et Édouard Philippe le confirme juste après, on va continuer.
Mais il y a un élément qui choque beaucoup et que vous ne
citez
pas,
deuxième,
c'est qu'en parallèle de ces augmentations d'impôts, il y a eu la suppression de l'impôt sur la fortune. Ça, pour vous, ce n'est pas un problème?
Ce ne serait pas un problème si on n'avait pas autant prélevé sur ceux qui sont les plus fragiles, les plus faibles, sur ceux qui constituent ce qu'on appelle ces classes moyennes, qui ont été les cibles des socialistes, et aujourd'hui, les cibles d'Emmanuel Macron. Il faut de la justice dans une politique. On peut entendre, naturellement, et en cohérence, j'ai soutenu la suppression de l'ISF dans le programme de François Fillon ou de Nicolas Sarkozy. L'ISF était un impôt qui nuit à l'efficacité économique de notre pays. Mais on ne peut pas, en même temps, comme ferait Emmanuel Macron, supprimer l'ISF et diminuer les revenus pour des retraités qui gagnent 700 ou 800 euros par mois. Injustice absolue, ça qui ne va pas.
Sur les taxes dont parle Emmanuel Macron aujourd'hui et qui fait déborder le réservoir des Français, c'est la taxe, elle a été votée aussi par vous, en 2000, sous la droite. En 2009. D'ailleurs, Emmanuel Macron le rappelle.
Elle n'a pas. Sous Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu de taxe carbone qui a été mise en œuvre, puisque le Conseil constitutionnel avait rejeté ce principe. Donc, sur la durée du quinquennat, il n'y a pas eu d'augmentation de la fiscalité. En tout cas, cette démarche de jouer sur la fiscalité punitive, elle ne me paraît pas, je le dis, pertinente.
Alors, il proposait ce matin donc cette fameuse taxe flottante qui serait en fonction du prix.
Si vous avez compris, vous m'expliquez, parce que sincèrement...
Jospin, c'est en fonction...
L'enfumage brouillageux.
Eh bien, c'est vous qui le dites, on écoute Emmanuel Macron. Ah, le son.
Pour nous mettre à l'abri de tels phénomènes. Et donc, adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole.
Voilà. Donc, pour vous, c'est de l'enfumage.
Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai compris que la hausse allait continuer en janvier. C'est d'ailleurs ce qu'a précisé d'ailleurs Édouard Philippe.
Si le prix du baril baisse,
et qu'elle pourrait éventuellement,
la taxe baissera.
Elle pourrait être éventuellement suspendue puis remise. Non, tout ça, c'est pas sérieux. On ne peut pas. Le 1er janvier 2019, puis le 1er janvier 2020, puis le 1er janvier 2021, puis encore le 1er janvier 2022.
Ce ne sera peut-être pas le 1er janvier, ce sera peut-être au mois d'avril.
Janvier, puisque c'est la planification qui a été programmée, continuer à augmenter ces taxes. Cela veut dire qu'à la fin du quinquennat, il y aura 800 euros de taxes nouvelles pour quelqu'un qui fait un plein de 50 litres par semaine. 800 euros, c'est gigantesque. C'est presque l'équivalent d'un SMIC pour quelqu'un qui travaille.
Si
pour un retraité, c'est l'équivalent d'une petite retraite.
Éric Ciotti, si tout ce que rapportent ces nouvelles taxes est intégralement réinvesti par compensation au service des Français de déductions fiscales sur les économies d'énergie, etc. Est-ce que du coup, là, le compte, il serait...
On pourrait rentrer dans ce raisonnement,
mais
ce n'est pas le cas.
Non, mais est-ce qu'on peut pas donner crédit que cette période de concertation qui va démarrer, qui doit durer 3 mois, est une méthode qui peut-être va consister à essayer de trouver ces mécanismes-là.
Aujourd'hui, dans cette trajectoire, on aboutit à 15 milliards de taxes en plus en 2022, par an. 15 milliards de taxes en plus en 2022. C'est gigantesque. Ça veut dire que... et vous savez... Combien sont consacrés à la transition énergétique? 500 millions d'euros. Donc, on voit bien qu'on est, je reprends ce mot, excusez-moi un peu pour cette réalité, mais on est dans l'enfumage. L'alibi environnemental n'est que la justification pour compenser la baisse de la taxe d'habitation. Nos grands stratèges de Bercy ont eu un raisonnement assez simple. Ils suppriment la taxe d'habitation d'un côté et de l'autre, ils augmentent les taxes sur les carburants. ils repeignent cet artifice en vert, ils se donnent bonne conscience.
Ça, c'est les crèmes d'œufs de Bercy. C'est vrai que depuis longtemps, c'est le même mécano que ce soit depuis 30 ans. On prend d'un côté
ce qu'on enlève de l'autre.
Oui, mais ça c'est du grand classique. C'est pas Macron qui a inventé le système.
J'en conviens. On a sans doute aujourd'hui l'exigence. Moi, j'appartiens à une génération aussi qui veut inverser les choses. J'appartiens à une famille politique qui doit être celle de la baisse de la fiscalité, qui doit être celle de l'inversion de la courbe.
Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire là, en réalité, c'est-à-dire pas faire de taxes sur le diesel. Pas de faire de transition écologique, de faire prendre conscience aux gens qui changent leur mode de fonctionnement.
Quand il y a des difficultés pour les Français, on ne charge pas la barque. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Ce qu'il aurait fallu, c'est une politique beaucoup plus globale, beaucoup plus cohérente. Je trouve notamment que la position par rapport au nucléaire, moi je soutiens la filière nucléaire. C'est le général de Gaulle qui l'a créé. Ça a porté à notre pays une richesse et une indépendance énergétique très forte. 70% aujourd'hui de l'électricité en France, 72% très exactement, est produite par l'énergie nucléaire. On y rajoute l'hydroélectricité. Ces deux énergies sont mal vues. Pourtant, ce sont des énergies non carbonées. Pourquoi on fragilise ?
Parce que le nucléaire, on le sait, aussi, est une énergie qui comporte des risques. On l'a vu au Japon.
Gérons ces risques. On nous dit qu'il y a 48 000 morts liées aux émissions de particules. Ces particules, elles sont émises en très grande quantité par les centrales au fioul de Madame Merkel, qui ont été réouvertes parce qu'on a fermé pour des raisons politiques. Les centrales nucléaires mesureront ces risques. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts aujourd'hui concrètement ? Travaillons sur la recherche, sur la question de l'élimination des déchets nucléaires. Et ces questions, elles sont posées. On peut aller vers l'innovation, vers la recherche, sur le carburant à hydrogène, sur les nouvelles technologies, les nouvelles sources d'énergie, plutôt que de pénaliser des automobilistes qu'on a incités à acheter des véhicules il y a à peine quelques années, voire un an ou deux, avec des primes. Tout ça est assez ridicule et je trouve que c'est de mauvaise foi. En plus,
je comprends bien, vous dites d'une part c'est un prétexte, la transition écologique, pour compenser la taxe d'habitation.
C'est un prétexte
et d'autre
pour
part,
augmenter la fiscalité.
Quand bien même ce serait la véritable intention, ce serait mal fait de toute façon.
En tout cas, regardons le problème à l'échelle de la planète. Qui pollue le plus ? La Chine ? Les États-Unis ? L'Europe, je crois que c'est 10% de la production de gaz à effet de serre. Et au sein de l'Europe, la France est le pays le plus vertueux. Donc on a, notamment grâce au nucléaire, on a déjà fait du travail. Il reste à accomplir cette exigence environnementale. On doit la porter. Mais de grâce, ne culpabilisons pas les automobilistes. On dirait que celui qui a une voiture aujourd'hui, c'est un assassin de la planète. Alors que de notre côté, on ouvre des centrales au fioul en Allemagne qui polluent 1 million de fois plus qu'un véhicule. Alors, voilà, la réalité, elle est là.
Éric Ciotti, je le disais tout à l'heure, vous avez été nommé ministre de l'Intérieur, du Shadow Cabinet de Laurent Wauquiez, sur le modèle anglo-saxon. Vous auriez fait quoi si vous aviez été ministre de l'Intérieur ? Est-ce que vous auriez laissé les manifestants aller sur les Champs-Élysées ? Et si vous l'étiez, d'autant plus, est-ce que samedi prochain, vous fermeriez les Champs-Élysées ? Quelle serait votre attitude ?
Je trouve qu'il y a une problématique majeure et une gestion du maintien de l'ordre qui a été très politique, voire très politicienne. On a mis un périmètre sanctuarisé autour de l'Élysée, très bien, et on a laissé le champ libre à des casseurs ailleurs, notamment sur les Champs-Élysées, qui est quand même la vitrine internationale.
On dit on l'a laissé volontairement, on les aurait laissé casser volontairement.
Je le dis,
c'est l'argument de Marine Le Pen.
Il n'y a pas eu de moyens suffisants, adaptés. Et il y a un discours qui est ridicule aujourd'hui en disant que les casseurs viennent de tel ou tel côté, de l'extrême droite. Il y a eu des décisions de justice, des comparutions de justice. J'ai pas l'impression que les personnes qui ont été interpellées, placées en garde à vue, déférées devant la justice, soient les représentants de l'ultra-droite, comme le dit, où sont les preuves? Voilà, j'ai l'impression que là aussi, il y a beaucoup de manipulation. Vous savez, que veut Emmanuel Macron? Il veut une radicalisation et il veut un duel face à l'extrême droite. Il prend un risque énorme parce que son échec dans cette stratégie. Son effondrement face aux Français risque de nous conduire demain à cette situation. Il joue avec le feu.
On va écouter, c'est un pompier pyromane. Puisque, alors, Christophe Castaner a en effet pointé la responsabilité de Marine Le Pen. Et le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, que vous connaissez bien, puisque c'est un ancien camarade de l'UMP, a été encore beaucoup plus loin. On va l'écouter.
Ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté.
Non, il y a aussi les gilets jaunes. Il y a beaucoup
vous dites c'est la peste brune qui a manifesté.
Évidemment, ceux qui étaient sur les Champs-Élysées, je ne les confonds pas du tout avec les gilets jaunes. C'est pas parce que vous mettez un gilet jaune que vous n'avez pas entre nous une chemise brune en dessous.
Voilà, la peste brune, l'expression est forte, hein, ça désigne le nazisme en fait. Hein.
La honte, elle est là. J'ai vu le tweet du président de la République parlant de honte. La honte, elle est dans les propos de M. Darmanin. Et qui insulte ceux qui ont manifesté. La peste brune, c'est naturellement vouloir radicaliser ce débat, le caricaturer à l'extrême. Là encore, le gouvernement prend un risque terrifiant. On avait déjà vu que M. Macron voulait installer ce débat entre les populistes et les progressistes au niveau européen, stigmatisant des pays membres de l'Union européenne, insultant leurs dirigeants. Et là, il insulte une partie des Français qui manifestent. C'est grave.
Ah, vous m'avez toujours pas répondu sur le fait, sur ce que vous feriez samedi prochain en tant que ministre de l'Intérieur.
Je crois qu'il y a des moyens de maintien de l'ordre qui doivent assurer la protection des biens. Quand il y a un commerce qui est pillé, on ne doit pas laisser aux casseurs, aux pilleurs, liberté du terrain pendant des heures. Donc il doit y avoir une autre stratégie du maintien de l'ordre. On ne laisse pas notamment un chantier se développer sur les Champs-Élysées sans protection.
Donc vous fermeriez les Champs-Élysées carrément.
Des éléments.
Vous fermez.
En tout cas, il faut un encadrement beaucoup plus strict. Il y a la possibilité de mettre des périmètres de protection. Ils ont été pris, la loi SILT les y autorise, ils ont été pris dans un cadre qui était manifestement trop restreint. J'ai l'impression qu'on a laissé prospérer ces violences pour mieux les dénoncer.
C'est assez grave de penser ça.
En tout cas, on a laissé pendant des heures.
S'ils pensent comme vous dites, c'est désespérant.
On a laissé pendant des heures les casseurs commettre ces dégâts. Et puis, voyons d'où viennent ces casseurs. J'attends les décisions de justice. Je crois que la situation sera beaucoup plus compliquée que celle que ne l'a décrit de façon caricaturale et partisane M. Castaner.
Pour ce que vous en savez, ça peut se faire ce genre de choses. Les ministres de l'Intérieur peuvent donner ce genre de consignes,
bien sûr,
avec des visées politiques.
Mais bien sûr,
ça s'est déjà fait.
Il y a une stratégie
de
maintien de l'ordre.
Mais je ne parle pas que de ce gouvernement.
Ça s'est naturellement fait vraisemblable dans le passé. Oui. Mais il y a une stratégie du maintien de l'ordre qui me paraît erronée dans le cadre précis.
Bien voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Eric Ciotti et on se retrouve évidemment mardi prochain.
Absolument. Et merci à Charlotte Durien, Thomas Kay, à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. Merci Eric Ciotti et à très vite.